École normale supérieure, savoir en multimédia.
Bonsoir à tous et merci d'être venus trop nombreux. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir non seulement un professeur et un comédien comme d'habitude, mais un poète, un professeur et un comédien. Vous l'aurez compris, Jean-Marie Glaise est donc professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon et poète lui-même et spécialiste de Ponge, bien évidemment. Il a notamment édité cet ouvrage, que je me permets de vous recommander. Ponge, résolument, vous le connaissez. Mais... et nous avons également le plaisir de recevoir ici pour la deuxième fois Denis Podalydès, qui est lui aussi, et ça peut-être ne le savez-vous pas, un amoureux de Ponge, et c'est d'ailleurs lui qui nous avait soufflé qu'il aimerait revenir et lire Ponge. Donc, en somme, la soirée risque d'être réussie, j'en ai peur. Bonne soirée.
La promenade dans nos serres, ô draperie des mots, assemblage de l'art littéraire, ô massif, ô pluriel, parterre de voyelles colorées, décor des lignes, ombre de la muette, boucle superbe des consonnes, architecture, fioriture des points et des signes, bref, à mon secours. Au secours de l'homme qui ne sait plus danser, qui ne connaît plus le secret des gestes, et qui n'a plus le courage ni la science de l'expression directe par les mouvements. Cependant, grâce à vous, réserves immobiles d'élans sentimentaux, réserves de passions communes sans doute à tous les civilisés de notre âge, je veux le croire, on peut me comprendre, je suis compris. Concentrez, détendez vos puissances, et que l'éloquence à la lecture imprime autant de troubles et de désirs, de mouvements commençants, d'impulsion que le microphone le plus sensible à l'oreille de l'écouteur. Un appareil, mais profondément sensible. Divine nécessité de l'imperfection. Divine présence de l'imparfait, du vice et de la mort dans les écrits. Apportez-moi aussi votre secours. Que l'impropriété des termes permette une nouvelle induction de l'humain parmi des signes déjà trop détachés de lui et trop desséchés. Trop prétentieux, trop plastronnant. Que toutes les abstractions soient intérieurement minées et comme fondues par cette secrète chaleur du vice, causée par le temps, par la mort et par les défauts du génie. Enfin, qu'on ne puisse croire sûrement à nulle existence, à nulle réalité, mais seulement à quelques profonds mouvements de l'air au passage des sons, à quelques merveilleuses décorations du papier ou du marbre par la trace du stylet. Ô traces humaines à bout de bras, ô sons originaux, monuments de l'enfance de l'art, quasi imperceptibles modifications physiques, caractères, objets mystérieux perceptibles par deux sens seulement et cependant plus réels, plus sympathiques que des signes. Je veux vous rapprocher de la substance et vous éloigner de la qualité. Je veux vous faire aimer pour vous-même plutôt que pour votre signification. Enfin, vous élever à une condition plus noble que celle de simple désignation.
Voilà. Je crois qu'il fallait faire entendre d'abord la voix de l'écrit. En commençant par ce texte, La promenade dans nos serres, dont Francis Ponge nous dit que qu'il est le texte le plus ancien de son œuvre publiée. C'est un texte qu'il a écrit en 1919, ce qui signifie qu'il a 20 ans quand il écrit cela, dans une serre du parc de Chantilly. Donc c'est un texte liminaire, on pourrait dire texte matriciel, puisqu'il s'adresse de façon toute lyrique à l'objet aimé qui est ici directement, simplement et naturellement la langue, ou comme il dit, le monde verbal, la réalité matérielle de la langue, et qu'il évoque ou invoque le rapport physique, le rapport érotique, dansé, gestuel, qu'on peut avoir avec elle. avec cette langue, avec celle dont toute l'œuvre ensuite viendra déployer la célébration. Alors s'il m'est permis de dire, mais je crois qu'il m'est permis de dire ici un mot en première personne, je dirais que Francis Ponge n'est pas du tout pour moi comme n'importe quel autre des très grands poètes du XXe siècle, Michaud, Charles, Breton, Éluard, enfin, que sais-je. Il est celui, pour moi, dont la lecture m'a initié à la poésie, a suscité, puisqu'il souhaitait se présenter comme un suscitateur, c'est un mot de lui, un mot fort, qu'il a suscité donc mon désir de réel, mon souci d'aller à la rencontre de la réalité rugueuse. Lorsqu'il m'est donné de m'exprimer donc publiquement à son sujet, c'est donc toujours avec un profond sentiment de reconnaissance, en fait. Je dois l'exprimer. Alors, s'il m'est évidemment très difficile de faire un portrait, un juste et complet portrait de Ponge, je crois qu'il me suffit de convoquer l'autoportrait de l'artiste en escargot. Je le cite. Seul, évidemment, l'escargot est bien seul, il n'a pas beaucoup d'amis, il n'en a pas besoin pour son bonheur, il colle si bien à sa nature, il en jouit si parfaitement de si près, il est l'ami du sol qu'il baise de tout son corps et des feuilles et du ciel, vers quoi il lève si fièrement la tête, avec ses globes d'yeux si sensibles. Noblesse, lenteur, sagesse, vanité, fierté. Je dois revenir un instant, puisque le mot « seul » commence cet autoportrait. Seul, évidemment, l'escargot est bien seul. Un instant sur donc la solitude. Je crois que nous avons peine à concevoir quelle a été la vertu, c'est-à-dire le courage de Francis Ponge, celui d'avoir accepté une reconnaissance différée, une reconnaissance difficile, problématique, en raison de son intransigeance théorique, poétique, morale, politique. En 1943, dans une lettre à Pierre Segers, il écrivait ceci: « J'ai depuis 20 ans beaucoup joui d'une sorte d'obscurité glorieuse. De fait, poète inconnu jusqu'au parti pris des choses en 1942, il est d'abord essentiellement reconnu par ses pairs dans un cercle restreint d'artistes, de poètes, de philosophes. Il devient ensuite, relativement tardivement, à partir du milieu des années 60, un poète, on pourrait dire, consacré, avec la publication de plusieurs volumes dans la collection Blanche, qui révèle l'ampleur de son travail. Puis finalement, une manière de poète semi-officiel, avec la publication de l'écrit Beaubourg pour l'inauguration du Centre Pompidou à Paris. Malgré la pléiadisation posthume en 1999, je crains que sa formule de 1943, « obscurité glorieuse », ne reste partiellement pertinente. Francis Ponge souhaitait qu'on entre de plein pied dans son œuvre, et de fait, elle se caractérise par la simplicité, par la précision, par l'évidence, par le souci constant du lecteur, mais c'est un fait aussi qu'elle se trouve en décalage manifeste avec ce que la majorité des lecteurs attend de ce qui se donne d'habitude à lire sous l'étiquette de poésie. Décalage. Alors, décalage est sans doute un euphémisme pour parler de ce qui sépare radicalement Francis Ponge de la doxa poétique de son temps. Dans le texte intitulé « My Creative Method », il fait, avec la fierté de l'escargot qu'il est, cette déclaration provocatrice, le jour où on voudra bien admettre comme sincère et vraie la déclaration que je fais à tout bout de champ, que je ne me veux pas poète, que j'utilise le magma poétique, mais pour m'en débarrasser, que je tends plutôt à la conviction qu'au charme, qu'il s'agit pour moi d'aboutir à des formules claires et impersonnelles. On me fera plaisir. On s'épargnera bien des discussions oiseuses à mon sujet. On ne peut en effet être plus clair quant à la volonté de sortie de l'enclos générique. Non plus charmes ou poèmes, comme le voulait Valérie, mais bien actes ou textes. La tentation est grande, semble-t-il, pour beaucoup, de reconduire Francis Ponge à l'intérieur de l'enclos et de tout faire pour qu'il paraisse un poète comme tous les autres. Reste qu'il proteste, qu'il ne cesse de protester, c'est d'ailleurs un protestant d'origine, en tout cas, et qu'il résiste, c'est aussi un résistant communiste durant la guerre, et qu'il nous faut apprendre à l'accepter pour ce qu'il est, c'est-à-dire plutôt un poète critique, un écrivain d'un autre genre. Je ne dis pas d'un mauvais genre, d'un autre genre. Une des difficultés avec Ponge est évidemment qu'il dit ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il dit. Tout ce que nous ajoutons au sujet de son texte ou de sa poétique risque d'être très redondant, plus ou moins adroitement paraphrastique. Alors, ainsi, de tous les fragments qui seront lus, à commencer par celui qui a été lu tout à l'heure, tous les fragments d'écriture qui seront lus aujourd'hui, ils comportent leurs commentaires internes, leurs commentaires explicites et sans aucun doute suffisants, leçons logiques ou métalogiques. C'est une des façons de suggérer que tout ce que je suis en train de dire est en quelque sorte en trop. Alors la façon la plus abrupte de présenter Ponge serait de dire qu'il se déplace sur une trajectoire qui va des petits écrits achevés et clos, des poèmes objets du parti pris des choses, à l'exhibition d'une écriture en acte, celle qu'il met en œuvre dans les textes ouverts de La Rage de l'expression, et qu'il radicalise ensuite par la publication systématique et aussi exhaustive que possible de ses carnets, de ses fabriques, de ses brouillons. En chemin, qu'est-ce qui tombe ? Ce qui tombe, c'est l'illusion de la parole absolue. Ce qui est en quelque sorte sacrifié, c'est le poème, proprement dit, au profit de quelque chose qui n'a plus de nom ou qui n'en a pas encore. Cela, c'est simplement la pratique de l'écriture, la progression dans ce que Ponge appelle, d'une formule que j'aime beaucoup, la forêt épaisse des expressions maladroites. Ou encore, d'une autre que j'aime tout autant, les brouillons acharnés de la nouvelle étreinte. D'un maniaque de la nouvelle étreinte, excusez-moi, c'est encore mieux. D'un maniaque de la nouvelle étreinte. La documentation datée, localisée de ses avancées relatives. Même si c'est en effet ensuite développé depuis une vingtaine d'années une critique attentive à la génétique textuelle, je ne sache pas que le texte de Ponge, celui de la substitution de l'acte à l'objet, ait été véritablement suivi. La publication des avant-textes comme du texte reste un geste que je crois singulier, expérimental, de toute façon provoquant. Il reste provoquant. Alors, nous allons entendre maintenant la lecture de quatre textes, un groupe de trois puis un autre. Les trois premiers se trouvent dans le recueil des proèmes. Et le quatrième, intitulé « Berge de la Loire », est en position préfacielle dans le livre intitulé « La rage de l'expression ». Les proèmes, comme leur nom l'indique, ne sont pas simplement des poèmes en prose ou de la prose en poème. Les proèmes sont aussi ce qui vient avant, ce qui précède l'écriture de poésie, ce que Ponge appelait à l'époque où il les écrivait ces moments critiques, ces moments d'écriture qui reviennent sur et tentent de formuler aussi précisément que possible les raisons d'écrire. D'ailleurs, « Des raisons d'écrire » est le titre de l'un de ces deux textes et pourrait être aussi le titre des deux autres, et notamment des Écuries d'Augias et de l'autre qui s'intitule « Rhétorique ». Je les ai choisis parce qu'ils appartiennent à cette période, en 1929-1930, durant laquelle Francis Ponge partage l'indignation et la colère des surréalistes contre l'ordre de choses. L'écriture, l'usage poétique du langage n'est en aucune manière par lui entendu comme un projet esthétique, mais comme un devoir auquel il ne peut se dérober, un devoir moral, un devoir politique. La langue n'est plus ou n'est plus seulement, comme dans le poème « Promenade dans nos serres » lu tout à l'heure, n'est plus seulement ce matériau dont on peut jouer pour en faire jouir son public ou le lecteur, mais ces paroles qu'il faut affronter, qu'il faut secouer, dont il faut à tout prix s'émanciper. Alors le quatrième texte, « Berge de la Loire », a ce même statut de programme. Et cette fonction, elle est soulignée par la position du texte en tête de La rage de l'expression, qui est un livre essentiel sur cette trajectoire dont je parlais tout à l'heure, dans la mesure où les textes qui l'assemblent, ce recueil, sont pour Ponge les premiers grands exemples d'une mutation théorique et formelle de sa part, d'une mutation stratégique, parce qu'elle engage tout l'avenir de son œuvre et la définition de ce qui va faire sa différence radicale avec des poètes comme Aragon ou Éluard, par exemple. Alors malheureusement pour Francis Ponge, lorsqu'il écrit ce texte sur les berges de la Loire lors de son séjour à Roanne, très physiquement sur les... Il les écrit sur les berges de la Loire à Roanne lors de son séjour à Roanne en 1941, lorsqu'il écrit ce texte, le parti pris des choses n'est pas encore paru. Et il va lui falloir encore attendre 10 ans et subir de multiples déconvenues pour que La rage de l'expression soit enfin, en 1952, publié en Suisse. Et ce texte, il est, si l'on veut, à double détente, puisqu'il dit à la fois ce qu'il en est de la décision que j'appellerais objectiviste, des textes du parti pris des choses, la détermination en faveur de l'objet, donc le fondement de la méthode ayant permis l'écriture du texte du parti pris des choses, dit à la fois cela et la nouvelle décision formelle, c'est-à-dire celle d'un travail, il prononce ces mots-là, de rectification continuelle de l'expression qui va faire entrer le lecteur dans l'atelier de l'œuvre, dans le secret du scriptorium. Donc voilà, les trois textes d'abord d'indignation et puis les berges.
Les écuries d'Augias.
Les écuries d'abord, ouais.
Les écuries d'Augias. L'ordre de choses honteux à Paris crève les yeux, défonce les oreilles. Chaque nuit, sans doute, dans les quartiers sombres où la circulation cesse quelques heures, l'on peut l'oublier. Mais dès le petit jour, il s'impose physiquement par une précipitation, un tumulte, un ton si excessif qu'il ne peut demeurer aucun doute sur sa monstruosité. Ces ruées de camions et d'autos, ces quartiers qui ne logent plus personne mais seulement des marchandises ou les dossiers des compagnies qui les transportent, ces rues où le miel de la production coule à flot, où il ne s'agit plus jamais d'autre chose pour nos amis de lycée qui sautèrent à pieds joints de la philosophie et une fois pour toutes dans les huiles ou le camembert, cette autre sorte d'hommes qui ne sont connus que par leur collection, ceux qui se tuent pour avoir été ruinés, ces gouvernements d'affairistes et de marchands, passent encore, si l'on ne nous obligeait pas à y prendre part, si l'on ne nous y maintenait pas de force la tête, si tout cela ne parlait pas si fort, si cela n'était pas seul à parler. Hélas, pour comble d'horreur, à l'intérieur de nous-mêmes, le même ordre sordide parle. Parce que nous n'avons pas à notre disposition d'autres mots, ni d'autres grands mots ou phrases, c'est-à-dire d'autres idées, que ceux qu'un usage journalier dans ce monde grossier depuis l'éternité prostitue. Tout se passe pour nous comme pour des peintres qui n'auraient à leur disposition pour y tremper leur pinceau qu'un même immense pot où depuis la nuit des temps, tous auraient eu à délayer leurs couleurs. Mais déjà d'en avoir pris conscience, l'on est à peu près sauvé. Et il ne reste plus qu'à se crever d'imitation, de phare, de rubrique, de procédé, à arranger les fautes selon les principes du mauvais goût, enfin à tenter de faire apparaître l'idée en filigrane par des ruses d'éclairage au milieu de ce jeu épuisant d'abus mutuels. Il ne s'agit pas de nettoyer les écuries d'Augias, mais de les peindre à fresque au moyen de leur propre purin. Travail émouvant et qui demande un cœur mieux accroché et plus de finesse et de persévérance qu'il n'en fut exigé d'Hercule pour son travail de simple et grossière moralité. Deuxième texte, rhétorique. Je suppose qu'il s'agit de sauver quelques jeunes hommes du suicide et quelques autres de l'entrée aux flics ou aux pompiers. Je pense à ceux qui se suicident par dégoût, parce qu'ils trouvent que les autres ont trop de part en eux-mêmes. On peut leur dire, donnez tout au moins la parole à la minorité de vous-même. Soyez poète. Ils répondront, mais c'est là surtout, c'est là encore que je sens les autres en moi-même. Lorsque je cherche à m'exprimer, je n'y parviens pas. Les paroles sont toutes faites et s'expriment. Elles ne m'expriment point. Là encore, j'étouffe. C'est alors qu'enseigner l'art de résister aux paroles devient utile. L'art de ne dire que ce que l'on veut dire. L'art de les violenter et de les soumettre. Somme toute, fonder une rhétorique, ou plutôt apprendre à chacun l'art de fonder sa propre rhétorique, est une œuvre de salut public. Cela sauve les seules, les rares personnes qu'il importe de sauver, celles qui ont la conscience et le souci et le dégoût des autres en eux-mêmes. Celles qui peuvent faire avancer l'esprit et, à proprement parler, changer la face des choses. Des raisons d'écrire. Qu'on s'en persuade, il nous a bien fallu quelques raisons impérieuses pour devenir ou pour rester poète. Notre premier mobile fut sans doute le dégoût de ce qu'on nous oblige à penser et à dire, de ce à quoi notre nature d'homme nous force à prendre part. Honteux de l'arrangement tel qu'il est des choses, honteux de tous ces grossiers camions qui passent en nous, de ces usines, manufactures, magasins, théâtres, monuments publics qui constituent bien plus que le décor de notre vie, honteux de cette agitation sordide des hommes, non seulement autour de nous. Nous avons observé que la nature, autrement puissante que les hommes, fait 10 fois moins de bruit, et que la nature, dans l'homme, je veux dire la raison, n'en fait pas du tout. Eh bien, ne serait-ce qu'à nous-mêmes, nous voulons faire entendre la voix d'un homme. Dans le silence, certes, nous l'entendons, mais dans les paroles, nous la cherchons. Ce n'est plus rien. C'est des paroles. Même pas. Paroles sont paroles. Ô homme, informe mollusque, foule qui sort dans les rues, millions de fourmis que les pieds du temps écrasent. Vous n'avez pour demeure que la vapeur commune de votre véritable sang, les paroles. Votre rumination vous écœure, votre respiration vous étouffe, votre personnalité et vos expressions se mangent entre elles. Telle parole, telle mœurs, ô société, tout n'est que parole. N'en déplaise aux paroles elles-mêmes, étant donné les habitudes que dans tant de bouches infectes elles ont contractées, il faut un certain courage pour se décider non seulement à écrire, mais même à parler. Un tas de vieux chiffons, pas à prendre avec des pincettes, voilà ce qu'on nous offre à remuer, à secouer, à changer de place. Dans l'espoir secret que nous nous tairons, eh bien, relevons le défi. Pourquoi, tout bien considéré, un homme de telle sorte doit-il parler? Pourquoi les meilleurs, quoi qu'on en dise, ne sont pas ceux qui ont décidé de se taire? Voilà ce que je veux dire. Je ne parle qu'à ceux qui se taisent. Un travail de suscitation, quitte à les juger ensuite sur leurs paroles. Mais si cela même n'avait pas été dit, on aurait pu me croire solidaire d'un pareil ordre de choses. Cela ne m'importerait guère si je ne savais par expérience que je risquerais ainsi de le devenir. Qu'il faut à chaque instant se secouer de la suie des paroles et que le silence est aussi dangereux dans cet ordre de valeurs que possible. Une seule issue parler contre les paroles, les entraîner avec soi dans la honte où elles nous conduisent de telle sorte qu'elles s'y défigurent. Il n'y a point d'autre raison d'écrire. Mais aussitôt conçue, celle-ci est absolument déterminante et combinatoire. On ne peut plus y échapper que par une lâcheté rabaissante qu'il n'est pas de mon goût de tolérer. Berge de la Loire, Roanne, le 24 mai 1941, que rien désormais ne me fasse revenir de ma détermination, ne sacrifier jamais l'objet de mon étude à la mise en valeur de quelques trouvailles verbales que j'aurais faites à son propos, ni à l'arrangement en poème de plusieurs de ses trouvailles. En revenir toujours à l'objet lui-même, à ce qu'il a de brut, de différent. Différente en particulier de ce que j'ai déjà, à ce moment, écrit de lui. Que mon travail soit celui d'une rectification continuelle de mon expression, sans souci a priori de la forme de cette expression, en faveur de l'objet brut. Ainsi, écrivant sur la Loire d'un endroit des berges de ce fleuve, devrais-je y replonger sans cesse mon regard, mon esprit, chaque fois qu'il aura séché sur une expression, le replonger dans l'eau du fleuve. Reconnaître le plus grand droit de l'objet, son droit imprescriptible, opposable à tout poème. Aucun poème n'étant jamais sans appel à minima de la part de l'objet du poème, ni sans plainte en contrefaçon. L'objet est toujours plus important, plus intéressant, plus capable, plein de droits. Il n'a aucun devoir vis-à-vis de moi, c'est moi qui ai tous les devoirs à son égard. Ce que les lignes précédentes ne disent pas assez, en conséquence, ne jamais m'arrêter à la forme poétique, celle-ci devant pourtant être utilisée à un moment de mon étude, parce qu'elle dispose un jeu de miroir qui peut faire apparaître certains aspects demeurés obscurs de l'objet. L'entrechoc des mots, les analogies verbales sont un des moyens de scruter l'objet. Ne jamais essayer d'arranger les choses. Les choses et les poèmes sont inconciliables. Il s'agit de savoir si l'on veut faire un poème ou rendre compte d'une chose, dans l'espoir que l'esprit y gagne, fasse à son propos quelques pas nouveaux. C'est le second terme de l'alternative que mon goût, un goût violent des choses et des progrès de l'esprit, sans hésitation, me fait choisir. Ma détermination est donc prise. Peu m'importe après cela que l'on veuille nommer poème ce qui va en résulter. Quant à moi, le moindre soupçon de ronron poétique m'avertit seulement que je rentre dans le manège et provoque mon coup de rein pour en sortir.
Pour en sortir. Alors, en entendant les trois textes, là, les écuries d'Augias, rhétorique et des raisons d'écrire, m'est venu à l'esprit ce que j'avais dit auparavant. Là, j'ai dit que c'est le moment 29-30 où Francis Ponge partage la colère des surréalistes et le diagnostic, en quelque sorte, que les surréalistes à cette époque-là porte sur la société telle qu'elle est, sur l'ordre des choses. Donc il partage ce sentiment, cette indignation, cette colère, mais en même temps, ce que vous avez entendu, ce que j'ai réentendu à l'instant, c'est que ce qu'il propose comme programme, qu'on peut résumer juste par la formule « résister aux paroles »,« parler contre les paroles », c'est exactement la poétique concrète, contraire de celle que proposent au même moment les surréalistes avec l'écriture automatique, laisser les paroles sortir, etc. C'est-à-dire que, donc là, on a une poétique, la proposition d'une poétique alternative dans les années 29-30. Simplement, cette poétique alternative, elle est complètement minoritaire, si je puis dire, par rapport à l'hégémonie et à la fécondité, disons, du bouillonnement surréaliste autour. C'est une des choses qui explique qu'à ce moment-là, enfin, Ponge est finalement en réserve, en quelque sorte, en résistance intérieure et légèrement, si je puis dire, clandestine d'une certaine manière. Bon, résister aux paroles, parler contre les paroles. Alors maintenant, la Mounine, donc la Mounine ou note après coup sur un ciel de Provence. Ce texte-là, il est un peu long, il va être lu intégralement, du moins il va y avoir une tentative de lecture intégrale de ce texte. C'est précisément la Mounine, un de ces longs dossiers ouverts au cœur de la rage de l'expression. Alors, note après coup dit évidemment le retour après coup par l'écriture sur les circonstances d'un moment intensément vécu, au lieu dit la Mounine près d'Aix-en-Provence, mais aussi dit aussi autre chose, dit la résonance quasi musicale d'une émotion ou d'une commotion, de souvenir de quelque chose comme un, dit Ponge dans le texte, un grand coup de gong. L'écriture ensuite prenant en charge de différentes manières, métaphoriques, descriptives, narratives, analytiques, prenant en charge donc de toutes ces différentes manières les échos insistants, disons les vibrations de ce coup. Il s'agit moins de la composition d'un poème qui reste au terme du journal, de ce journal encore à venir et sans doute définitivement impossible. Il s'agit moins de cela qu'à travers la rédaction endurante de ce que bon, j'appelle des pages malhabiles et répétitives, de la recherche d'une explication. Là où un autre se serait contenté de chercher les mots pour transcrire poétiquement l'émotion initiale, l'orage originel, Francis Ponge, lui, il parle de son étude pour désigner ce qu'il est en train de faire. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tenter d'objectiver ce complexe lieu, paysage, instant, émotion, de l'isoler pour le conserver, pour le saisir. Là, ce sont des verbes qu'il utilise. L'isoler pour le conserver, pour le saisir, et donc le comprendre et rendre compte du caractère à la fois énigmatique et violent, magnifique et angoissant, ou magnifique mais angoissant, de la sensation et tenter d'en dégager, d'en formuler, il dit la loi ou bien la formule. Et La Fontaine, lui, il disait la leçon, disons. La Fontaine, lui, il disait la morale. Et Ponge se réfère bien souvent à La Fontaine, qui est pour lui un modèle, d'une certaine manière. Donc, La Mounine est un exemple particulièrement significatif de cette nouvelle poétique de Ponge, qui privilégie la visée cognitive, la forme et les figures de la poésie pouvant concourir, mais simplement au titre de moyens parmi d'autres. Voilà. Car il s'agit en fait, in fine, de savoir, de conquête de l'objet, de compréhension. Un peu plus tard, d'ailleurs, à la fin des années 60, c'est un mot bizarre, le mot gnoc, qui sera, par Francis Ponge, chargé de se substituer au mot poème pour dire ce programme, ce projet de connaissance. Puisqu'à l'intérieur du mot gnoc, il y a cette racine grecque hein, qui dit la gnose. Voilà. La compréhension, la connaissance du réel. Donc, nous ouvrons le journal.
Relevant, et plutôt plongé dans une grippe assez formidable. J'espère que je vais arriver jusqu'au bout. Ça s'entend un peu, mais bon, je vais quand même essayer. Je vous prie de m'excuser si jamais je flanche. La Mounine ou note après coup sur un ciel de Provence, pour Gabriel Audizio. Cahier ouvert à Roanne, le 3 mai 1941, La Mounine. Il n'a fait jour résolument qu'au Martigues. À Port-de-Bouc, aucune odeur. L'homme de Saint-Dié assis en face de moi était agacé par le panache de la locomotive. Je le fus donc aussi. Énorme graffiti à Marseille et dans sa banlieue. Vers 9h du matin, dans la campagne d'Aix, autorité terrible des ciels, valeur très foncée, moins d'azur que de pétales de violette bleue. Azur cendré. Impression tragique. Quasi funèbre. Des urnes. Des statues de bambini dans certains jardins. Des fontaines à masques et volutes à certains carrefours aggravent cette impression, la rendent plus pathétique encore. Il y a de muettes implorations au ciel de se montrer moins fermé, de lâcher quelques gouttes de pluie, dans les urnes, par exemple. Aucune réponse. C'est magnifique. À Aix, trois fontaines moussues scintillent. La mousse est roussie. L'eau n'en jaillit que faiblement. Y brille en tresses molles et mobiles. Il y a des rues entières d'hôtels de robe, décor pour les plaideurs. Ressemblance d'Aix et de Caen. On se croirait dans une dépendance de la bibliothèque Mazarine. L'absence totale d'automobiles favorise naturellement cette illusion. Nuit du 10 au 11 mai, décidément. La chose la plus importante dans ce voyage fut la vision fugitive de la campagne de Provence au lieu dit Les Trois Pigeons ou La Mounine, pendant la montée en autocar de Marseille à Aix entre 8h30 et 9h du matin, 7h30 à 8h au soleil. Campagne à végétation grise, avec du vert jaune des mailles perçant malgré tout, sous un ciel d'un bleu plombé, entre la pervenche et la mine de crayon, d'une immobilité, d'une autorité terrible, et ses urnes, ses statues de bambini, ces fontaines à volutes des carrefours constituant œuvres, signes, traces, preuves, indices, testaments, laits, héritages, marques de l'homme et supplications au ciel. Au fond, les lointains de Berre et des Martigues, sans vue de mer, mais avec vue d'un grand viaduc. De ce paysage, il faut que je fasse conserve, que je le mette dans l'eau de chaux, c'est-à-dire que je l'isole, non de l'air ici, mais du temps. Il ne me faut pas l'abîmer. Il faut que je le maintienne au jour. Pour que je le maintienne, il faut d'abord que je le saisisse, que j'en lis en bouquet pouvant être tenu à la main et emporter avec moi les éléments sains, imputrescibles et vraiment essentiels, que je le comprenne. Le peintre Chabot. Ce qui m'a frappé, c'est le bleu de la lavande, l'atmosphère si pesante, ce n'est pas le mot, si fermée sur le paysage, gris et vert jaune naissant, plus d'azote que d'ache ou d'eau, si cendré, plombé, si bon repoussoir aux couleurs délicates, comme le miroir noir des peintres. Cela était déjà très impressionnant. Mais à la première apparition de statues, selon la marche de l'autobus, urne, bambino ou fontaine, c'est devenu saisissant, beau à pleurer, tragique. Donc, deux temps. Un, le paysage. Deux, les statues. Rien ne ressemble plus à la nuit que ce jour bleu cendre-là. C'est le jour de la mort, le jour de l'éternité. Rapprocher mon émotion à Bio en 1924. Il y a silence, mais moins silence qu'oreille bouchée, tympan tout à coup convexe, par changement de pression, tambour voilé, trompette bouchée, tout cela naturellement comme dans les marches funèbres. Quelque chose d'éclatant voilé, de splendide voilé, d'étincelant voilé, de radieux voilé. Ce qui est curieux, c'est que la chose éclatante en question soit voilée par l'excès même de son éclat. Rien ne ressemble plus à la nuit. C'est trop dire. Disons seulement, il a quelque chose de la nuit. Il évoque la nuit. Il n'est pas si différent de la nuit. Il a une valeur de nuit. Il a les valeurs de la nuit. Il a la même valeur, les mêmes valeurs que la nuit. Il vaut la nuit. Ce jour vaut la nuit. Ce jour bleu cendre là. Comme un son éclatant vous assourdit, vous voile le tympan et dès lors vous ne l'entendez plus que comme à travers des épaisseurs de voile, de liège, de coton, ne se peut-il qu'un soleil trop splendide, dans une atmosphère trop sèche, vous voile les yeux, d'où interposition de voiles funèbres? Non. Je me rappelle un petit matin avec mon père, à Villeneuve-les-Avignon, près du château du roi René, un jour que d'abord nous avions été à la gare accompagner ma mère. J'avais moins de 10 ans. Ce jour vaut nuit. Ce jour du roi René. Peut-être était-ce la première fois que je voyais le petit jour. Non, ce n'était plus le petit jour, mais le grand matin. Mais ce n'avait pas ce caractère accablant. Accablant, c'est trop dire. Je me rappelle aussi le volet bleu fermé d'un coup, il fait jour à l'intérieur. Le ciel n'est qu'un immense pétale de violette bleue. Et tout, là-dessous, les maisons, les routes, les oliviers, les arbres verts, les champs d'émail, tout est comme braise de couleurs variées, sur le point de s'éteindre, sur le point de renaître, comme la braise cendreuse si l'on souffle dessus. Des lueurs comme phosphorescente, comme d'un feu intérieur, secret, qui n'irradie pas. À certains endroits, la cendre, à d'autres, la braise. Ce n'est pas tout à fait cela. Il ne faut à ces choses du paysage donner trop d'éclat, prêter trop d'éclat. Non, ce qui était surtout, presque uniquement remarquable, c'était l'apesantissement de lavande sur tout cela, à travers les branches en particulier, etc. D'ailleurs, le paysage est gris, généralement quelconque, notablement notarié. C'est le lieu, c'est la campagne du droit romain, abstrait, individuel et social. La lavande est le parfum qui convient à la toile propre. 11 au 12 mai. Sur la campagne de Provence, règne un pétale de pervenche. Ce jour bleu de cendre vaut nuit qui pèse sur la Provence. Aux environs d'Aix-en-Provence, pétale de violette bleue, pervenche ou mine de crayon, il y a du rose sous ce bleu, toute chose égale d'ailleurs, parfaitement Monsieur Chabot l'a vu, parfaitement Monsieur Chabot l'a vu mieux que Monsieur Cézanne. Rose pervenche à mine de crayon, il tient son ombre estompée dans son éclat même. Son ombre est estompée dans son éclat même. L'ombre est estompée à l'intérieur des corps, ainsi la mort dans la plus pure joie. Pétale de violette bleue, un azur à mine de plomb, affleure au jardin de Provence. Ce jour de cendre-là vaut nuit, le peintre Chabot l'a bien vu. Son ombre dans son éclat tient estompée le jour qui, lui, sur la Provence, est un azur à mine de plomb. Ce jour bleu de cendre-là vaut nuit, le peintre Chabot l'a bien vu. Son ombre dans son éclat tient estompée toute disséminée. Tambour voilé, trompette bouchée. Ce jour bleu de cendre là vaut nuit, son ombre à son éclat tient tout estompé, il luit de jour sur la Provence, un azur à mine de plomb, des cendres au lieu de gouttes, y sont descendres au lieu de gouttes, y sont disséminées. Au lieu d'une vapeur imperceptible, une imperceptible fumée, mais stable, sans mouvement, des réseaux très fins de ténèbres y sont tendus. Un beau jour est aussi un météore. Il tient toute la nature sous le charme, la terreur de son autorité. Il tient toute la nature muette sous son autorité. Tout cœur s'arrête de battre. Seuls les stupides hannetons et les autobus continuent à ronfler et à se cogner. Qui ne voit ici que le ciel est fermé? L'immensité intersidérale est vue ici par transparence et c'est grandiose, aperçue sur l'infini. Ce ne sont que des gaz irrespirables. Comme à travers une eau claire, les poissons au-dessus d'eux peuvent apercevoir l'atmosphère ou l'imaginer. Nous apercevons le milieu éthéré. Certes, nous n'avions pas besoin de cela, de voir si évidemment le ciel fermé, pour juger que Dieu est une invention ignoble, une insinuation détestable, une proposition malhonnête, une tentative, hélas, trop réussie d'effondrement des consciences humaines et que les hommes qui nous y inclinent sont des traîtres ou des imposteurs. Ailleurs, la nature respire vers des cieux qui s'occupent d'autres choses, par exemple de voiturer les nuages. Ici, les cieux s'occupent décidément d'étouffer la nature. Il est clair, ici, que la nature étouffe. Elle reste coite sous le ciel fermé, essaie pathétiquement de vivre. Les urnes, les statues se font ses interprètes pour une supplication. Mais aucune réponse. C'est splendide. 12 au 13 mai. Je n'arriverai pas à conquérir ce paysage, ce ciel de Provence. Ce serait trop fort. Que de mal il me donne. Par moments, il me semble que je ne l'ai pas assez vu. Et je me dis qu'il faudrait que j'y retourne, comme un paysagiste revient à son motif à plusieurs reprises. Pourtant, il s'agit de quelque chose de simple. Au lieu dit La Mounine, entre Marseille et Aix, un matin d'avril vers 8 heures, à travers les vitres de l'autobus, eh bien, qu'ai-je ? Je ne parviens pas à continuer. Le ciel au-dessus des jardins, comme je levais les yeux vers la cime des arbres, et quoiqu'il fût pur de tout nuage, m'apparut tout mélangé d'ombre, comme blâmé. Ciel blâmé, tout mélangé d'ombre et de blâme, voire aussi blême, comme frappé de congestion. Ce jour vaut nuit, ce jour bleu cendre là, il tient son ombre dans les serres de son éclat. Son ombre à son éclat tient tout estompé, il tient son ombre dans son éclat estompé. Il pèse sur la Provence, pèse n'est pas le mot. Il a sur elle l'autorité d'un miroir noir, paysage généralement quelconque, mais incandescent, embrasé. Son ombre à son éclat mêlé comme par une estompe. Son ombre à son éclat mêlé comme par une estompe. La plus fluide des encres à style est-elle vraiment la bleue noire ? Azur à mine de plomb. Ce gaz lourd résulte en vase clos d'une explosion de pétales de violette bleue. Ce jour vaut nuit, ce jour bleu cendre là. Son ombre tient toute dans les griffes de son éclat. Une estompe les a mêlées. Il a sur la Provence, paysage généralement quelconque mais incandescent, l'autorité du miroir noir des peintres. Et puisque nous parlons des peintres, disons que M. Chabot, toute chose égale d'ailleurs, l'a mieux vu que le grand Cézanne. A mieux rendu cette tragique permanence, ce tragique ancrage de la situation. Quel poulpe a soupiré son envie aux cieux ? Gros cœur s'est épanché. Quel compte-goutte a vidé son cœur gros ? Un poulpe a-t-il reculé dans les cieux de Provence ? Où l'air ici résulte-t-il de l'explosion en vase clos d'un pétale de violette bleue ? Ce jour vaut nuit, ce jour bleu cendre là, il tient son ombre dans les serres de son éclat. Les tempes des maisons sont serrées aussi, congestion de l'azur. Quel gros cœur de poulpe reculant dans le ciel s'est vidé, provoquant ce tragique ancrage de la situation. Occlusion, congestion, syncope. Le temps est celui que les couleurs ont mis pour passer. Sous l'effort de la lumière, le cœur est serré par l'angoisse de l'éternité et de la mort. Il s'arrête de battre. Non, mauvais. Paralysie, syncope, immobilité, silence. Phosphorescence printanière. Contraction du paysage généralement quelconque. Blême. Très pâle, plus que pâle. Étymologie. De l'ancien scandinave blâmi, couleur bleue, de bla, bleu, voyez, bleu. Blâme, 1. Expression de l'opinion, du jugement par lequel on trouve quelque chose de mauvais dans les personnes ou les choses. 2. Reproche, tâche. De blasphémare. Congestion de congerere, amasser. Estomper, de schtumpf, émoussé, incandescence, devenir blanc. Schtumpf ou stumpf, je sais pas. Incandescence, devenir blanc. Luminescence n'existe pas au littré. 10 juin. Je me suis demandé ce soir, quand je ne dormais encore qu'à demi, maintenant, c'est aux trois quarts. 1. s'il ne serait pas plus fidèle d'écrire à partir de l'autobus où je me trouvais quand je ressentis ce paysage, plus fidèle et plus réussissable. 2. Plus tard, mais était-ce en songe, cela m'échappe, je ressentis très fortement la difficulté du sujet, mon mérite et le peu de chances que je possède de réussir à le traiter. 10 au 30 juin 1941. Cette étude devrait-elle être très longue encore? Elle peut aussi bien durer des années. Ne jamais me laisser entraîner à oublier ce de quoi il s'agit pour moi, simplement de rendre compte. 1. L'autobus avançait, cinématique. 2. L'autorité du ciel sur le paysage, petit a le ciel, petit b le paysage, m'avait fortement surpris, ému, intrigué. 3. Quand apparurent les statues, les urnes, mon émotion tout à coup fut décuplée. Il y eut sanglots. L'autobus, autocar, autocar de Marseille à Aix, au lieu dit La Mounine, ou à celui des Trois Pigeons, ou à celui des Frères Gris, avançait. Assez lentement, il est vrai, cela montait. J'étais contre la vitre, fermé, tassé, passant inaperçu, inaperçu de moi-même. L'heure importe, 8 heures du matin, fin avril. Mais, à vrai dire, l'avance de l'autobus ne m'a été sensible qu'au moment où les statues, les urnes apparurent. Peut-être devrais-je donc intervertir 1 et 2. Oui, il le faut. 1. L'autorité du ciel sur le paysage, petit a le ciel, petit b le paysage, m'avait fortement surpris, ému, intrigué. Et petit 2, donc, l'autobus avançait, cinématique. Indispensable aussi de rapprocher cela de mon émotion à Bio et de celle à Craponne-sur-Arzon. Sanglots. Peut-être de celle au vieux colombier ou à la lecture quand le starets Zosima s'agenouille devant Dimitri Karamazov et encore dans Les Misérables quand Monseigneur Machin s'agenouille devant le vieux conventionnel. Peut-être, mais pas sûr. Ces deux derniers sanglots-là, ce fut devant le coup de théâtre noble de la justice rendue, réparation donnée. Les autres, ce fut devant le tragique des paysages, la fatalité naturelle, météorologique, à noter que toujours les ciels, et aussi toujours la cinématique, à Bio, l'Express, changement de décor tout à coup, à Craponne, ce fut en me retournant à moto. À Craponne, il y avait de l'humain, comme à La Mounine. Ici, statues et urnes, là, clochers et tours de château et toits de village. À Bio, non, c'était tout naturel, la mer seule. La vue d'un Cézanne, un jour, les joueurs de cartes, noblesse de l'effort suppléant au manque de moyens, et modestie certaine. La modestie des statues de Bambini et des urnes y fut, dans le même sens, pour grand-chose. Premier au 12 juillet 1941. À quelle heure, très matinale, le grand coup de gong a-t-il été donné, dont toute l'atmosphère vibre encore, sans déjà qu'aucun son ne se fasse plus entendre, et vibrera toute la journée. Le soleil trône, sur lequel il est impossible de maintenir le regard, et ses tambourinaires l'entourent, les bras levés au-dessus de leur tête. Mais non, tout cela est effacé par l'ardeur même. L'on jurerait, de mémoire, qu'il n'y avait que le ciel bleu, plus vide assurément que le ciel nocturne. Quelle autorité, quel point irrésistible s'est abattu sur la tôle nocturne pour éveiller les vibrations du jour qui durera jusqu'à ce qu'elle se rassoupisse. Note après coup sur un ciel de Provence, quelle poulpe reculant dans le ciel de Provence a provoqué ce tragique ancrage de la situation? Mais non, il s'agit d'un gaz lourd et non d'un liquide. Quelque chose comme le résultat de l'explosion en vase clos d'un million de pétales de violette bleue. Il y a comme des cendres éparses dans l'azur et aussi une odeur comparable à celle de la poudre. C'est comme si le jour était voilé par l'excès même de son éclat. Ce jour vaut nuit, ce jour bleu cendre là. Il tient son ombre estompée dans son éclat. Il tient son ombre dans les griffes de son éclat. Un coup de poing irrésistible a été donné sur la tôle de la nuit jusqu'à ce qu'elle vibre au blanc. De très bonne heure ce matin. Et les vibrations vont s'amplifiant jusqu'à minuit. Sauf ces vibrations, il règne une immobilité. Une stupéfaction pareille à celle qui suit les coups de feu, les actes irréparables, les crimes. Voilà comment je rejoins les expressions habituelles sur la malédiction de l'azur. Je suis hanté, l'azur, l'azur, l'azur. Que s'est-il passé? Pourquoi cette autorité terrible des ciels sur ce paysage si simple, ce paysage notarié, ce paysage de droit romain? Pourquoi cette sévérité, cette punition par l'intensité de la lumière, infligeant ombre nette au moindre débris, au moindre rose de la poussière? Pourquoi cet étouffement, cette brutalité, ces valeurs foncées? N'est-ce que la rançon du beau temps? Toutes les bêtes sous les sunlights sont rentrées dans leurs trous. Les pierres et les végétaux seuls supportent, restent en proie à la terrible lumière. Et soudain, à quelques statues, se révèle la préoccupation de l'homme. Il expose ses statues au soleil, il les lui présente, les lui offre, en un sens aussi, il les lui oppose. Il vient de les poser devant lui, en artisan, comme sur la plaque d'un four, le boulanger offre, présente son pain au feu. De tels météores ne sont pas parmi les plus faciles à décrire. Chaque chose est comme au bord d'un précipice. Elle est au bord d'une ombre, si nette et si noire qu'elle semble creuser le sol. Si nette et si noire qu'elle semble creuser le sol. Chaque chose est au bord de son précipice, comme une bille au bord de son trou. 12 juillet 41. La plus fluide des encres à style est-elle vraiment la bleue noire, azur à mine de plomb? Quel poulpe reculant au fond du ciel de Provence a provoqué ce tragique ancrage de la situation? Où s'agit-il, goutte à goutte, d'une infusion du poison qui commence comme ciel et qui finit comme azur? Il s'agit d'une congestion. Tant d'azur s'est amassé. Les maisons, les tuiles serrées, laissent close leurs paupières. Les arbres ont mal à la tête. Ils évitent de bouger la plus petite feuille. Non, il s'agit de l'explosion en vase clos d'un milliard de pétales de violettes bleues. Rohan, 13 juillet 41, au lieu dit Lamounine, entre Marseille et Aix, un matin d'avril vers 8h par la vitre de l'autocar, le ciel, quoique limpide au-dessus des jardins, m'a paru tout mélangé d'ombre. Quel poulpe reculant hors du ciel de Provence avait-il provoqué ce tragique ancrage de la situation? Ou n'était-ce plutôt quelque chose comme le résultat de l'explosion en vase clos d'un milliard de pétales de violettes bleues? Il y avait comme une dissémination de cendres dans l'azur, et je ne suis pas sûr que l'odeur n'en fût pas comparable à celle de la poudre. L'on éprouvait comme une congestion de l'azur. Les maisons, les tempes serrées tenaient closes leurs paupières. Les arbres avaient l'air atteints de maux de tête. Ils évitaient de bouger la moindre feuille. C'était comme si le jour était voilé par l'excès même de son éclat. Ce jour vaut nuit, pensais-je. Ce jour bleu de cendres-là, il tient son ombre dans les griffes de son éclat. Son ombre à son éclat tient toute estompée. D'où vient cette autorité terrible des ciels? Quel coup de poing a été donné sur la tôle de la nuit pour la faire vibrer ainsi, devenir si radieuse de vibrations qui s'amplifieront jusqu'à midi? Et comment se fait-il que règne une telle immobilité, semblable à l'attente qui succède si curieusement aux actes décisifs, aux coups de feu, aux viols, aux meurtres? Pourquoi cette sévérité sur ce paysage si généralement quelconque, ce paysage notarié, ce paysage de droit romain? Pourquoi cet accablement pathétique? Est-ce la rançon du beau jour? Un beau jour est aussi un météore, le moins facile à décrire, sans doute. Rohan, 14 juillet 1941. Au lieu dit Lamounine, auprès d'Aix-en-Provence, un petit matin de printemps, le ciel pourtant limpide, au travers des feuillages, m'a paru tout mélangé d'ombre. Je ne crois pas que la nuit rancunière, pour venger son recul d'au-dessus ces régions, est vidé de son encre à style, la bleue noire, son gros cœur de poulpe à notre détriment. Je ne crois pas la nuit poulpe si rancunier, je ne crois pas la nuit poulpe si rancunier, pour son recul derrière l'horizon, avoir voulu d'encre à style bleu noir, vider son cœur à cette occasion. Je ne crois pas la nuit si rancunière, d'avoir voulu poulpe à cette occasion, vider son cœur d'un flot d'encre bleu noir. Je ne crois pas la nuit si rancunière que, reculant derrière l'horizon, elle ait voulu vider d'encre à style bleu noir son cœur de poulpe à cette occasion. Note, motion d'ordre à propos du ciel de Provence, 19 juillet 41. Il s'agit de bien décrire ce ciel tel qu'il m'apparut et m'impressionna si profondément. De cette description, ou à la suite d'elle, surgira, en termes simples, l'explication de ma profonde émotion. Si j'ai été si touché, c'est qu'il s'agissait sans doute de la révélation sous cette forme d'une loi esthétique et morale importante. À l'intensité de mon émotion, à la ténacité de mon effort pour en rendre compte et aux scrupules qui m'interdisent d'en bâcler la description, je juge de l'intérêt de cette loi. J'ai à dégager cette loi, cette leçon. La Fontaine eût dit cette morale. Ce peut être aussi bien une loi scientifique, un théorème. Donc, à l'origine, un sanglot, une émotion sans cause apparente. Le sentiment du beau ne suffit pas à l'expliquer. Pourquoi ce sentiment ? Beau est un mot qui en remplace un autre. Il s'agit d'éclaircir cela, d'y mettre la lumière, de dégager les raisons de mon émotion et la loi de ce paysage. De faire servir ce paysage à quelque chose d'autre qu'au sanglot esthétique, de le faire devenir un outil moral, logique, de faire à son propos, faire un pas à l'esprit. Toute ma position philosophique et poétique est dans ce problème. À noter que j'éprouve les plus grosses difficultés du fait du nombre énorme d'images qui viennent se mettre à ma disposition et masquer, mettre des masques à la réalité, du fait de l'originalité de mon point de vue, étrangeté vaudrait mieux, de mes scrupules excessifs, protestants, de mon ambition démesurée, etc. Bien insister que tout le secret de la victoire est dans l'exactitude scrupuleuse de la description. J'ai été impressionné par ceci et cela. Il ne faut pas en démordre, ne rien arranger, agir vraiment scientifiquement. Il s'agit une fois de plus de cueillir à l'arbre de science le fruit défendu, n'en déplaise aux puissances d'ombre qui nous dominent, à Monsieur Dieu en particulier. Il s'agit de militer activement, modestement mais efficacement, pour les lumières et contre l'obscurantisme. Cet obscurantisme qui risque à nouveau de nous submerger au XXe siècle du fait du retour à la barbarie voulu par la bourgeoisie comme le seul moyen de sauver ses privilèges. On peut, pour saisir la qualité d'une chose, si l'on ne peut l'appréhender d'emblée, la faire apparaître par comparaison, par élimination successive. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, etc. Question métatechnique ou technique simplement. C'est embêtant de passer là-dessus. C'est pas encore très long, hein, si vous tenez le... Bon, je vais peut-être quand même passer là-dessus, sur Odizio. Un commentaire de Gabriel, son ami Gabriel Odizio, à qui il a passé son manuscrit, et il en déduit qu'il en voudrait en arriver d'ailleurs à de pareils proverbes. Et il cite d'ailleurs La Fontaine, et il voudrait arriver un peu à la... N'y a-t-il pas là une perfection quasi scientifique, une naissance de formule ? Il y a la vérité d'un acte du lion, c'est à propos de la fable de La Fontaine, du lion et du rat, je crois, du lion, le lion et le rat, voilà. C'est à de pareils proverbes que j'aimerais aboutir, etc. Il commente encore, il parle d'un livre ensuite. Bon, Rohan, 19-28 juillet, il est temps d'y revenir. Au lieu, dit la Mounine auprès d'Aix-en-Provence, un matin d'avril vers 8h, le ciel pourtant limpide au travers des feuillages m'apparut tout mélangé d'ombre. Un beau jour est aussi un météore, pensais-je, et je n'eus de cesse que j'eusse inventé quelque expression pour le fixer. Je crus d'abord, ce n'était point que la nuit rancunière, pour venger son recul d'au-dessus ces régions, avait voulu vider d'encre à style bleu-noir son cœur de poule par cette occasion. Ou peut-être, me dis-je, ce n'était point infusé goutte à goutte, s'agit-il du poison dont le nom qu'on redoute, étrangement proche de sa couleur, commence comme ciel et finit comme azur. Si je dis voilé par son éclat même, je ne serais pas beaucoup plus avancé. Peut-être le ciel n'est-il si noir qu'en comparaison avec les choses, arbres, maisons, etc., lesquelles sont tellement éclairées, des magasins de clarté. Comme lorsqu'on sort d'une salle brillante, dehors il fait noir. Comparaison avec les ciels du Nord. 24 juillet, 1h30 du matin, un pas nouveau. Comme un buvard. Une serpillière imprégnée d'eau sont plus foncés. Pourquoi? Est-ce que la science optique donne la réponse? Sont plus foncés que secs. Secs, ils sont 1, plus cassants, 2, plus pâles. Ainsi, le ciel bleu est-il un buvard imprégné de la nuit interstellaire? Plus ou moins imprégné, il est plus ou moins foncé. À Aix-en-Provence, il est très imprégné, parce qu'il n'y a pas grand-chose entre les espaces interstellaires et lui. Dans le midi, il y a beaucoup de soleil, c'est entendu, mais il y a beaucoup aussi la concomitante nuit interstellaire. Ils luttent l'un contre l'autre, au sens où Verlaine dit « les hauts talons luttaient avec les longues jupes ». L'on peut dire que dans le midi, le soleil triomphe moins que dans le nord. Certes, il triomphe davantage des nuages, brouillards, etc., mais il triomphe moins de son adversaire principal, la nuit interstellaire. Pourquoi ? Parce qu'il sèche la vapeur d'eau, laquelle constituait dans l'atmosphère le meilleur paravent de triomphe pour lui. Écran dont le défaut va se faire sentir, il en résulte une plus grande transparence et faculté d'imprégnation par l'éther intersidéral. C'est la nuit intersidérale que les beaux jours l'on voit par transparence et qui rend si foncé l'azur des cieux méridionaux. Expliquez cela par analogie avec le milieu marin, ou plutôt aquatique. Au lieu dit la Mounine auprès d'Aix-en-Provence ce matin, le ciel m'a paru, je formais tout d'abord. Pas simple. Je vais finir parce que je finis les deux dernières. L'abîme supérieur, zénital, le soleil est fait pour nous aveugler. Il transforme le ciel en un verre dépoli à travers quoi l'on ne voit plus la réalité. Celle qui apparaît de nuit, celle de la considération. Ah, un petit passage qui était bien avant. Mais je devais évidemment me souvenir de mon émotion. Voilà bien le sujet de poème, ce qui me pousse à écrire, soit le désir de reformer le tableau pour en conserver à jamais la jouissance présomptive, soit le désir de comprendre la cause de mon émotion, de l'analyser. M'étant mise au travail, j'éprouvais de grandes difficultés et formais plusieurs images cohérentes, celle du poulpe, celle du cyanure, celle de l'explosion de pétales, sachant bien qu'il fallait que je les dépasse, m'en débarrasse pour parvenir à l'explication vraie, celle de la clairière donnant sur la nuit intersidérale. Et je dis le tout dernier passage. Certes, le soleil empêche qu'on voit les étoiles en plein jour, mais l'on devine la nuit intersidérale qui fonce le ciel, qui lui donne cette apparence plombée. Si l'on aime tant venir dans la région méditerranéenne, c'est à cause de cela, pour jouir de la nuit en plein jour et sous le soleil. Pour jouir de ce mariage du jour et de la nuit, de cette présence constante de l'infini intersidéral qui donne sa gravité à l'existence humaine. Alliance plutôt que mariage. Ici, point d'illusion comme dans le nord, point de distraction par la fantasmagorie des nuages. Ici, tout se passe sous le regard de l'éternité temporelle et de l'infini spatial. Tout prend donc son caractère éternel, sa gravité. Des événements comme un ciel nuageux, un orage, une tempête, me semble d'un ordre sordide. Ce sont là travaux d'office, lessive terrestre. J'aime les régions où cette fastidieuse hydrothérapie a lieu le moins souvent possible, se produit brièvement. L'orage, comme douche, le soleil ensuite comme séchoir. Vraiment, cher Beethoven, cela valait-il la peine d'en faire des représentations grandioses? Voir plutôt l'orage de Léonard de Vinci, où l'importance d'un tel météore est bien remise à sa place. C'est dans le sens de ce qui précède que devrait être continué et achevé le poème dont le début serait à peu près comme ci-après, La Mounine. Au lieu dit La Mounine auprès d'Aix-en-Provence, on pourrait le dire tous ensemble par cœur, un matin d'avril, vers 8 heures, le ciel pourtant limpide à travers les feuillages m'apparut tout mélangé d'ombre. L'on eût dit que la nuit rancunière, pour venger son recul d'au-dessus ses régions, avait voulu vider d'encre à style bleu-noir son cœur de poulpe à cette occasion. ou peut-être me dis-je infusé goutte à goutte. S'agit-il du poison dont le nom qu'on redoute, étrangement proche de sa couleur, commence comme ciel et finit comme azur? Mais non. Cyanure. Je viens de trouver. L'atmosphère était telle que je ne puis avec quelque raison m'espérer voir fournir par l'élément liquide un terme de comparaison. Il s'agit d'un gaz lourd ou d'une congestion ou bien du résultat comme de l'explosion en vase clos d'un milliard ou d'un seul pétale de violette bleue, etc. Mais il importe, à présent, de laisser reposer notre esprit, qu'il oublie cela, s'occupe d'autre chose et cependant se nourrisse longuement, à petites bouchées, dans l'épaisseur muqueuse, dans la pulpe, de cette vérité dont nous venons à peine d'entailler l'écorce. Un jour, dans quelques mois ou quelques années, cette vérité aux profondeurs de notre esprit étant devenue habituelle, évidente, peut-être, à l'occasion de la relecture des pages malhabiles et efforcées qui précèdent, ou bien à l'occasion d'une nouvelle contemplation d'un ciel de Provence, écrirai-je d'un trait simple et aisé ce poème après coup sur un ciel de Provence que promettait le titre de ce cahier, mais que, passion trop vive, infirmité, scrupule, nous n'avons pu encore nous offrir.
Merci.